Le titre de mon message aujourd'hui, c'est lui et pas toi. Ce message fait suite à celui que j'ai donné la semaine passée sur Jésus et moi, Yesu kai mai. Le Seigneur me montrait qu'il y avait un deuxième niveau à Jésus et moi, une deuxième façon de voir Jésus et moi qui caractérise l'Église aujourd'hui. Non seulement l'Église d'aujourd'hui a Jésus et moi comme maître, mais l'Église d'aujourd'hui a aussi Jésus et moi comme source, comme ressource, comme origine de sa force. Au lieu que sa force soit uniquement en Jésus, sa force est en moi. Et c'est ça que le Seigneur me donnait aujourd'hui comme message. Jérémie chapitre 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Le Seigneur était étonné devant son peuple. Le péché de son peuple était qu'il n'avait pas seulement abandonné Dieu comme maître, mais il avait aussi abandonné Dieu comme seule source d'eau vive. Et le Seigneur était étonné de cela. Le Seigneur se frémissait d'épouvante et d'horreur. Le Seigneur est étonné que son peuple ait pu commettre une telle faute, celle de l'abandonner lui, la source d'eau vive, la seule vraie ressource, la seule origine de toute force spirituelle, physique, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et l'Église commet cette faute-là. Elle abandonne Jésus comme seule ressource, Jésus seulement, pour se tourner vers elle-même, ses ressources personnelles, ses ressources du moi. On compte plus sur moi pour demeurer en santé qu'on ne compte sur Jésus. On compte plus sur le moi pour nos finances que l'on compte sur Jésus. On compte plus sur le moi pour notre direction que l'on compte sur Jésus. On remplace Jésus par des choses naturelles, les choses qui viennent du moi. On s'arme au niveau de notre santé de toutes sortes de conseils, de médecins, de médecine naturelle. On travaille fort au niveau de nos finances, on réussit, on entreprend beaucoup de choses, on travaille beaucoup. Comme si on réussit, on a de la richesse, on devient riche. Mais tout cela trouve son origine en moi, pas dans le Seigneur. De cette façon, l'Église n'apprend pas à compter sur le Seigneur, elle apprend à compter sur le moi. Et cela aussi est un péché aux yeux de Dieu. Cela est quelque chose qui est incompréhensible, parce que Dieu désire bénir son peuple de toute ressource. Et pour lui, c'est incompréhensible que son peuple puisse compter sur ses propres forces plus que sur lui-même. David disait que la force appartient à Dieu, la richesse aussi. Ça appartient à Dieu, et non à nous. Mais l'Église n'a pas encore appris cela. On va tourner dans le psaume 103, à partir du verset 1. « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Dieu sait que nous n'avons pas en nous-mêmes la force. Dieu sait que ce qui nous entoure est souvent plus fort que nous. C'est pourquoi David disait, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Ne regarde pas les choses que Dieu n'a pas encore accomplies. Regarde toutes les bontés que l'Éternel a déjà faites, a déjà accomplies. C'est lui qui fait concourir toutes choses à ton bien. » Au verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. » C'est lui. C'est son amour. Pardonne non pas certaines de tes iniquités, toutes tes iniquités. C'est lui qui t'assure une paix parfaite, complète. Au verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. » C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Dieu veut guérir toutes tes maladies. Ça se peut que dans ta vie, des maladies te frappent. Dieu dit, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui désire guérir toutes tes maladies, pas juste certaines de tes maladies. La parole ne parle pas en vain. Toutes tes maladies. Aucune n'est oubliée devant Dieu. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, de la mort à tous les niveaux, de la mort au niveau physique, financier, relationnel. Quand tu passes par des chemins difficiles, par des épreuves, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui, pas toi. C'est pas toi qui vas faire ces choses-là. C'est pas au moins à guérir nos maladies, à délivrer notre vie de la fosse, à rassasier de bien notre vieillesse. C'est lui qui désire le faire. Il est la source d'eau vive. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. C'est lui qui fait droit, qui va te rendre au double de ce que l'ennemi t'a volé. C'est lui qui a la puissance de te faire droit, de te faire justice. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Son but, c'est de manifester la compassion qu'il a pour chacun de nous. Il a compassion de ceux qui le craignent. L'Éternel désire manifester cette compassion, mais il faut apprendre à se confier sur lui. C'est lui qui va faire ces choses-là, non pas nous. Si nous nous confions en nous-mêmes, nous perdons de vue sa bénédiction, nous perdons de vue qu'il est la seule source, et cela devient une forme d'adultère spirituel. Nous nous confions en quelqu'un d'autre qu'en lui, qu'en notre Dieu, qu'en Jésus, pour satisfaire nos besoins. Tandis que Dieu désire, lui, les satisfaire. Dieu désire donner toutes ces choses gratuitement, par pure grâce, parce que Dieu est gracieux. S'il agit envers nous, ce n'est pas à cause de notre justice, ce n'est pas à cause de notre bonté, c'est par pure grâce. Il les donne tout à fait gratuitement. Mais cependant, cela lui a coûté beaucoup à lui pour nous les acquérir. Ce n'a pas été gratuit pour lui de nous acquérir ces choses-là. Cela a coûté la vie de son Fils. Il a fallu que Jésus-Christ aille à la croix pour nous accorder toutes ces bénédictions, pour nous accorder le pardon de nos péchés, pour nous accorder d'être guéri en lui de toutes nos meurtrissures, pour nous accorder d'être délivrés de la mort, que par sa pauvreté, nous puissions être enrichis. C'est lui qui a accompli à la croix le châtiment que méritaient nos fautes. C'est à cause de ce châtiment tombé sur Jésus que la compassion de Dieu nous est possible, qu'on peut atteindre cette compassion du Père. S'il veut nous donner cela gratuitement, il veut cependant que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons reconnaissants pleinement du coût que cela lui a coûté. Cela a coûté la vie de son Fils. Il l'a fait pour nous par amour. Il n'était pas obligé d'aller donner sa vie à la croix pour nous. Ce n'était pas un dû pour nous. Comme la pensée moderne aujourd'hui, tout nous est dû. Ce n'est pas vrai. Cela ne nous était pas dû. Il a fallu que le Père donne sa vie pour ses enfants, que Jésus soit envoyé donner sa vie pour nous à la place de notre châtiment, qu'il prenne sur lui tout le châtiment que méritaient nos fautes. Il a pris ça sur lui par amour, pas parce qu'il était obligé, parce qu'il nous aimait. Et aujourd'hui, s'il désire nous donner cette grâce, il veut cependant qu'on soit conscient de cet amour si intense, si immense qu'il a eu pour nous. C'est pour ça qu'il va permettre dans nos vies des épreuves, des temps difficiles. Il veut nous couronner de bonté et de miséricorde. Mais il va permettre des temps difficiles dans notre vie pour que justement sa bonté, sa miséricorde, son amour deviennent évidents pour nous. Si on tourne à Jacques chapitre 1, le verset 12, la parole nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Remarquez, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Donc, il y a un ordre là-dedans. Oui, Dieu désire nous pardonner toutes nos iniquités, guérir toutes nos maladies, délivrer notre vie de la fausse, mais il va permettre aussi l'épreuve pour nous couronner de sa bonté, pour qu'on se rende compte, qu'on soit rendu conscient à quel point son amour est grand. Tout ce que lui, ça lui a coûté pour nous donner ces choses tout à fait gratuitement. Il y a un prix que lui a payé, c'est son amour. Puis Dieu veut nous la révéler, cet amour-là, pour qu'on ne soit pas irrespectueux, ingrat envers lui, manquant de reconnaissance, manquant de crainte à son égard. Ça devient pour ceux qui le craignent, sa bonté nous couronne. Ça devient comme une couronne. Mais il faut passer par ces situations difficiles patiemment. Ça dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Il faut passer patiemment par cette situation et attendre le secours de l'Éternel. Il veut nous secourir, mais il faut attendre son secours et non pas par soi-même se secourir. Chercher un secours en soi-même, dans nos propres forces, dans nos chevaux, notre pouvoir de s'en sortir par soi-même. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Et qui ne met pas sa confiance sur le nombre de ses chars, sur la puissance de sa force personnelle. Heureux l'homme qui met sa confiance en l'Éternel, qui ne se confie pas en l'homme. Heureux cet homme qui se confie complètement en l'Éternel, parce que c'est là notre bénédiction. Et le contraire, si l'on ne se confie pas en l'Éternel, mais qu'on se confie en moi, cela amène l'Éternel à être en colère, déçu. C'est comme une forme d'infidélité pour Dieu. C'est ce qui dénote l'Église de Laodicée aujourd'hui. Non seulement elle a pris pour maître le moi, mais elle a pris aussi pour ressource le moi. Cela attise la colère de Dieu. Le Saint-Esprit est attristé de cela. On a lu tantôt dans Jérémie que Dieu est étonné. Comment son peuple a-t-il pu abandonner, lui, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées? Comment son peuple a-t-il pu changer ses dieux pour ce qui n'est pour rien? on voit que cela étonne Dieu, que cela l'attriste. C'est comme si le Saint-Esprit désirait nous conduire dans l'épreuve pour nous donner en abondance sa gloire, sa bénédiction. Mais lorsque l'épreuve arrive, nous sommes vite prêts à l'oublier et à se confier en soi-même, à regarder vers soi pour satisfaire ce que Dieu lui-même désire faire pour nous. C'est de la folie. L'Église est comme ces vierges folles qui, oui, ont été purifiées par l'agneau, mais elle est folle. Elle ne sait pas à quel point son Dieu désire pourvoir à tous ses besoins. Son Dieu désire vraiment être son Dieu. Son Dieu désire être un père pour elle. Son Dieu désire être un époux pour son Église. Jérémie 17, verset 5, ça nous dit, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. » Ça parle de confiance, trouver sa source dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur. Il ne voit point arriver le bonheur. Pourquoi? Parce qu'il se confie dans sa propre chair. Il prend la chair pour appui et détourne son cœur de l'Éternel. C'est trop long à attendre après l'Éternel. C'est trop long supporter la tentation. Je vais m'en sortir par moi-même. C'est souvent la pensée de l'Église. Oh Dieu, on a prié, ça fait tellement longtemps qu'on attend, on va se tourner maintenant vers l'homme. Au verset 7, Jérémie 17, verset 7, « Mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. » Il ne cesse de porter du fruit. L'homme qui prend pour appui seulement l'Éternel, Jésus seulement, pas Jésus et moi comme appui, Jésus seulement. Le psaume 84, à partir du verset 6. « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, dans les chemins de Sion. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et se présente devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton Messie. » Au verset 12, « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. » Heureux l'homme dont la force est tout entière placée en toi, qui savent que c'est l'Éternel seul qui bénit, qui veut bénir, qui est une source de vie. Que Dieu nous apprenne à le considérer, lui seul, comme notre maître, mais lui seul, comme notre ressource. Car c'est sa volonté. Il veut nous emmener à la mort à soi, nous emmener à porter notre croix, la mort dans l'âme, à reconnaître qu'il n'y a pas de sagesse dans notre âme. Il n'y a pas de force pour nous diriger. Notre âme n'est pas maître et elle n'est pas non plus ressource. Elle n'est ni l'une ni l'autre. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas, nous disait Jérémie. Notre âme, il faut l'emmener à la croix et permettre à la vie, à la puissance de la résurrection de Jésus de venir et de complètement prendre soin de nous. C'est lui qui veut pardonner nos iniquités, toutes nos iniquités. C'est lui qui veut guérir toutes nos maladies. C'est son désir. C'est son travail pour nous. Il a une abondance à notre disposition. Mais il veut qu'on apprenne à se confier en lui. Puis ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas comme un bouton qu'on pèse dessus, puis là, on reçoit ce pour quoi on a demandé. C'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Ce n'est pas instantané. Dieu accorde ses bénédictions à ceux qui attendent patiemment envers lui, à ses pieds, qui savent que lui seul bénit, que lui seul est la ressource. Donc, ils savent qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs. Quand Jésus a dit à Pierre et à ses disciples, « Et vous, ne voulez-vous pas, vous aussi, vous en aller? » Pierre lui a répondu à Jésus, « Mais Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as la vie. Tu es la lumière. Tu es la porte d'entrée. Tu es la ressource. Tu es le pain qui descend du ciel. Tu es la résurrection et la vie. À qui d'autre irions-nous? » Pierre avait appris ça. À qui d'autre irions-nous? Il avait Jésus non seulement comme maître, mais il avait Jésus comme unique source de ressources. La source de vie pour Pierre était Jésus. Ce n'était pas Jésus et moi. Jésus et mes ressources. Jésus et mes capacités. Je vais ajouter mes capacités aux tiennes. Non, ce n'était pas ça. C'était Jésus seulement. Viens et vis au travers de moi. Que ta puissance se manifeste au travers de moi. C'est pour cela qu'il y a 2 ans, le Seigneur m'avait donné un songe. Dans ce songe, je voyais arriver comme mon père, mon petit papa d'amour. Il arrivait, il ouvrait la porte, puis là, il tendait les bras et disait, « J'arrive, maintenant j'arrive. » Là, il me serrait dans ses bras, très fort, et là, je me mettais à pleurer dans ses bras. Je savais que c'était un moment merveilleux. C'était comme si le Père Céleste me serrait dans ses bras, même si c'était rien qu'un rêve. Puis là, une fois qu'il m'a serré dans ses bras, il est retourné en arrière, il a dit, « Attends un peu. » Il est allé chercher quelque chose dehors pour rentrer à l'intérieur. Et c'était 2 toilettes. Je me suis longtemps demandé qu'est-ce que cela signifiait, ces 2 toilettes que le petit papa, que mon père, allait chercher dehors. J'ai compris qu'est-ce que cela signifiait, ces 2 toilettes. Le Père, il vient, il veut nous accorder ses bénédictions, mais tant que le moi est là, souvent c'est inconscient, on ne se rend même pas compte à quel point on se confie encore dans le moi, dans nos propres ressources. Et tant que cela est là, il ne peut pas nous bénir. Il ne peut pas venir pleinement en nous, manifester sa gloire. Alors il amène 2 toilettes pour purger, pour nous purger du moi, pour qu'on se vide du moi. Toilette, ton toit est lait. En bon québécois, on dit souvent « toilette ». À la place de dire « lait », on dit « lait ». Et c'est un peu l'image que Dieu emmenait. Le « moi » devait passer, être purgé, enlevé, pour permettre à sa gloire de venir. Et ce qui est merveilleux, il y a à peine quelques jours, le Seigneur m'a redonné un nouveau rêve. C'est comme s'il y a toujours un chemin, une formation que Dieu nous entraîne à sa suite. Il veut agir, mais il est obligé de nous transformer pour pouvoir agir pleinement en nous. Et c'est ça, il y a quelques jours, j'ai vu à nouveau mon père. Mais cette fois, il arrivait dans la cour de chez moi, et il arrivait avec 2 énormes tanks, réservoirs de lait. C'est comme une vanne, un camion, avec 2 gros réservoirs de lait. C'est lui qui conduisait, il emmenait ça, il rentrait ça dans la cour. Et dans mon rêve, c'était comme un lait très spécial. Et quand je me suis réveillé, tout de suite, ce verset est venu à ma tête. Le lait de ses consolations. Le Père se prépare à emmener le lait de ses consolations. Ésaïe 66, le verset 10. « Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse. » Le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie. Vous tous qui menez deuil sur elle. Vous tous qui menez deuil sur elle. Vous tous qui êtes conscients de la condition actuelle de l'Église et qui priez que Dieu intervienne, qui priez que Dieu la réveille, la ramène à lui, qui priait que Dieu sorte de la torpeur cette Église qui est centrée sur elle-même, sur le moi. Vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations. Dieu veut nous nourrir et nous rassasier du lait de ces consolations. Mais il faut abandonner le moins avant. Il faut passer par la toilette. Il y avait deux toilettes. Justement, ça fait 2 ans que j'ai reçu ce rêve-là. Et depuis les 2 dernières années, justement, Dieu nous a conduits dans les sentiers de la grâce, dans les sentiers du renoncement à moi. Dieu n'a pas cessé de nous enseigner cela et il nous l'a fait vivre dans notre vie de tous les jours. Au niveau financier, ça a été le rétrécissement, ça a été l'amincissement. Dieu nous a fait suivre une cure d'amincissement au niveau du moi. Nos ressources ont diminué, notre santé a diminué. Nous sommes devenus à plusieurs points atteints par la maladie. À plusieurs égards, nous nous sommes retrouvés encore seuls à nouveau. Au niveau relationnel aussi, nous avons diminué. Dieu nous a amenés à diminuer à tout point de vue. Parce qu'il voulait d'abord emmener le moi à la mort, à la croix, pour que lui puisse manifester le lait de ses consolations. Une fois qu'on devient un avec lui dans sa mort, on peut devenir aussi un avec lui dans la puissance de sa résurrection. Il peut alors manifester la puissance de sa résurrection envers nous. Parce qu'il n'y a plus le moi dans ses jambes. Il n'y a plus le moi au travers de sa route. Puisque tant que le moi est au travers de sa route, il ne peut pas agir en nous. Il est obligé de nous emmener comme dans un entonnoir rétréci, passer par un canal très étroit pour abandonner ce moi-là afin de manifester sa gloire. Et si on continue à lire Ésaïe 66, le verset 11, « Afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. » Dieu veut manifester la plénitude de sa gloire. Il veut manifester son bonheur à lui. Pas le bonheur du moi. Si on continue à se confier en moi, on obtiendra seulement le bonheur du moi. Mais comme on a lu tantôt en Jérémie, celui qui se confie dans la chair, il reste loin du bonheur, du vrai bonheur que Dieu lui avait promis, que Dieu a promis à tous ses enfants qui le craignent. Il y a un bonheur promis par Dieu, qui vient de Dieu, qui n'est pas le bonheur du moi, qui n'est pas le bonheur parce que j'ai travaillé fort, parce que maintenant je me suis enrichi, maintenant j'ai une belle maison, maintenant je peux faire des voyages, maintenant... C'est tout le bonheur du moi. Ce n'est pas ce bonheur-là que Dieu parle ici. C'est le bonheur qui vient de la gloire de Dieu présente au milieu de nous. Verset 12. « Ainsi par l'Éternel, voici je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve. » La paix comme un fleuve. Il veut tourner ce regard vers nous et nous accorder sa paix, son autorité sur l'ennemi. Et la paix vient parce que nous avons une autorité sur les puissances démoniaques, les puissances du diable, les puissances dans les lieux célestes qui tiennent captif ce peuple. Et la gloire des nations comme un torrent débordé. Dieu veut ramener les captifs de Sion qui sont captifs dans les pièges de l'ennemi. Dieu veut délivrer ces captifs. Et vous serez allaités et vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, et vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Le lait de ses consolations. La plénitude de sa gloire que Dieu désire manifester envers les siens. Il est une source d'eau vive. Il est notre gloire, comme on a lu tantôt dans Jérémie. Y a-t-il un peuple qui change sa gloire pour ce qui n'est rien? Le moi est vanité. Le moi est comme de l'herbe, une fleur qui paraît un jour et qui n'est plus. Voilà l'homme. Voilà notre moi. Nous ne sommes pas plus que de l'herbe, car nous paraissons un jour et demain nous ne serons plus. Mais la gloire de Dieu, elle, lorsqu'elle paraît dans la vie de quelqu'un, elle dure à toujours et elle porte des fruits éternels, un salut éternel. C'est la gloire de Dieu. C'est lui qui désire venir et agir au milieu de nous, manifester son salut. Mais il faut renoncer au moi. Renoncer au moi, non seulement comme maître, comme celui que l'on suit, mais renoncer au moi aussi comme ressource, comme source de notre vie, comme appui, comme confiance. Ne pas se confier dans la chair. Ne pas se confier en l'homme. Apprendre à se confier tout entier en lui. Dieu parcourt la terre du regard pour chercher l'homme dont le cœur est tout entier à lui. Un cœur tout entier, c'est un cœur qui a délaissé le moi, qui l'a mis à la croix, puis qui a laissé Jésus régner sur sa vie, mais aussi qui a laissé Jésus devenir sa seule ressource, devenir un vrai époux pour lui. Car Dieu désire être notre époux. Notre Créateur désire être notre époux. C'est son désir. Ésaïe 62, au verset 3, « Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. » Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. L'Éternel met son plaisir en toi. Il est comme un époux pour toi. Il désire prendre soin de toi à tous égards. Il désire réellement s'occuper de toi, manifester sa droite, son bras puissant. Au verset 8, Ésaïe 62, « L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant, je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin. » Au verset 10, Ésaïe 62, verset 10, « Franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples, ôtez les pierres, préparez le chemin. » Il faut enlever la pierre du moi. La pierre du moi, il faut l'enlever de notre vie et l'emmener à la croix. C'est la seule manière que la bénédiction de Dieu, que Jésus lui-même peut venir nous bénir. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il faut enlever la pierre du moi et la mettre à la croix. C'est la seule solution. Élevez une bannière vers les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre, verset 11. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive, voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint racheté de l'Éternel, et toi on t'appellera recherché ville non délaissée. Mais il y a toujours cette condition-là, apprendre à se confier à l'Éternel seul, et à renoncer au moi, comme maître et comme ressource. Yesu Kamai, la condition, le mouvement qui agite l'Église aujourd'hui, qui est le moi comme ressource et comme maître, cela doit être emmené à la croix. C'est la seule solution, revenir à la croix de Jésus, porter notre propre croix, c'est-à-dire le renoncement à moi, amener notre âme à la mort, à renoncer à elle-même. Renonce à ta sagesse personnelle. Renonce à tes désirs. Renonce à ta volonté personnelle, à la puissance personnelle que tu as en toi de vouloir régler par toi-même tes problèmes de santé, tes problèmes physiques, tes problèmes financiers, tes problèmes relationnels. Apprends à te confier en Dieu et tu seras gagnant. Apprends à mettre toute ta confiance en Dieu, n'aie pas peur. Quand l'épreuve arrive, appuie-toi à l'Éternel, patiemment. Continue à te confier en lui, continue à te tenir devant lui, c'est lui qui va agir, et lui, il agira. Psaume 37 nous dit clairement, verset 3, « Confie-toi à l'Éternel, pratique le bien et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Mais en lui, pas en toi, en lui seulement ta confiance, et il agira. Le problème de l'Église, c'est un problème d'incrédulité. Le moi reste en avant. On se confie plus dans le moi qu'on se confie en Dieu. Cette pierre doit être enlevée de notre chemin. Cette pierre du moi qui entraîne l'incrédulité, qui empêche la provision de Dieu de venir dans notre vie, doit être enlevée. Cela attriste le Saint-Esprit. Dieu désire pourvoir, mais il faut qu'il y ait le chemin libre. Il ne faut plus que le moi soit là. Ma sagesse, ma force, à force de travailler, je vais devenir riche, je vais m'en sortir. Comme d'habitude, je vais m'en sortir encore. Le peuple d'Israël disait la même chose. Je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. Et Dieu disait par le prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 30, verset 15. Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. La version Amplified nous dit, c'est dans le retour à Dieu. Le retour à Dieu. Si tu restes en Dieu, c'est dans le retour à Dieu et le fait que tu restes en lui que sera ton salut. C'est dans le retour à Dieu, revenir, se confier en Dieu et que tu restes, que tu demeures en lui. La tranquillité et le repos, c'est ça que ça veut dire. Reviens vers Dieu, te confie seulement en lui et reste. Repose-toi en lui, reste, demeure en lui. C'est là que va être son salut. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force, dans la quiétude. Reste calme, repose-toi en lui. Ne t'inquiète pas, c'est lui ta force. C'est là que va être ta force. Mais il dit au verset 15, « Mais vous ne l'avez pas voulu. » Le problème d'Israël, vous ne l'avez pas voulu. Vous n'avez pas voulu vous confier seulement en Dieu. Verset 16, vous avez dit, « Non, nous prendrons la course à cheval. » Non, nous prendrons la course à cheval. On va s'en sortir encore comme d'habitude. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Vous avez dit, « Non, nous monterons des coursiers légers. » C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Mille fuiront à la menace d'un seul et à la menace de cinq, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Dieu était fatigué de voir son peuple ne pas se confier en lui. Cela fatigue Dieu. Le moins fatigue Dieu. Jésus n'a pas dit en vain « Renonce ». Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il ne faut plus que le moi soit là. Nous sommes destinés à être une épouse pour Christ. Et c'est l'époux lui-même qui désire se charger de nous, prendre soin de nous à tous égards et nous diriger. C'est lui, c'est son rôle. Il veut tenir ce rôle pleinement et entièrement dans notre vie. Apprenons à nous confier en lui. C'est là qu'est notre force. Ce n'est pas difficile. C'est se confier en lui. C'est simplement d'attendre, patiemment, de continuer à espérer en lui. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, nous dit Jérémie dans les Lamentations. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. S'il tarde, attends-le. Il va venir, c'est lui qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. David disait, mon âme n'oublie pas aucun de ses bienfaits. Même si tu attends une promesse en particulier qui est encore différée, que Dieu semble encore attendre pour toi par rapport à une promesse, rappelle-toi qu'il y a beaucoup d'autres choses que Dieu a fait pour toi. Il y a beaucoup d'autres promesses que Dieu a déjà accomplies. N'oublie aucun de ses bienfaits. Même si ton âme est impatiente, attends, attends près l'Éternel. La couronne de vie est réservée pour ceux qui savent attendre. Dieu veut te couronner de bonté et de miséricorde. Il veut manifester son amour pleinement pour toi. Marchons sur le chemin de Sion. Marchons vers cette plénitude de gloire, ce lait de consolation que Dieu désire déverser sur nos vies, pour ceux qui auront passé au travers du renoncement à moi, sur les sentiers de la grâce, qui ont marché dans ce sentier étroit, resserré, mais après, Dieu va élargir le chemin. C'est son désir, c'est son plaisir pour nous, c'est sa bénédiction pour nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.